mercredi 17 avril. Ici Karl Marchand. Voici les nouvelles. Bonne fin d'avant-midi, mesdames et messieurs. Le départ du whip de la CAQ, Éric Lefebvre, pour le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre, a pris tout le monde par surprise à l'Assemblée nationale. Le député d'Arthabasca continuera cependant de siéger à titre d'indépendant. Louis Lacroix.
Le départ du whip, Éric Lefebvre, a pris tous ses collègues par surprise.
Éric fait ses choix, puis on le remercie pour le travail qu'il a fait. Excusez,
c'était pas annoncé, donc c'est sûr que ça peut être surprenant.
Que ce soit un des premiers à quitter le bateau, ça surprend.
Okay. Un des premiers, dit le député Mario Asselin, est-ce que d'autres pourraient imiter Éric Lefebvre et tenter leur chance au fédéral? Questionné à ce sujet, le ministre Éric Girard n'a jamais dit non.
Pourquoi je suis pas capable de dire ça? Parce que j'ai pas à répondre à cette question-là. J'ai des responsabilités. Je suis ici. Je suis heureux de mes responsabilités.
Pour l'heure, Éric Lefebvre va continuer à siéger comme indépendant, une situation qui indispose le solidaire Vincent Marissal.
Visiblement, son cœur est ailleurs. Je pense qu'il doit prendre une décision en respect pour sa population.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
Le Québec prendra le temps d'évaluer correctement s'il veut augmenter l'imposition du gain en capital pour les personnes plus fortunées, comme le fera le gouvernement fédéral. Dans son budget, hier, Ottawa a annoncé qu'au-delà du seuil de 250 000 $, les deux tiers des gains en capital seront imposés plutôt que la moitié. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, veut prendre le temps de bien comprendre la mesure avant de décider si Québec s'harmonisera avec ce qui a été annoncé par Ottawa.
On veut vérifier les calculs. On veut comprendre pourquoi la mesure est différée jusqu'au mois de juin. L'autre point, c'est qu'on veut voir si est-ce qu'il y a une opportunité économique pour nous. Est-ce que c'est possible que d'être une juridiction avec un gain de capital moins élevé, ça amènerait, ça attirerait des investissements des entreprises? Faut bien analyser ça, mais on va faire ça rapidement.
Et au lendemain de la présentation du budget, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu un discours devant son caucus ce matin pour mobiliser ses troupes. Il a soutenu que le gouvernement doit poursuivre sa mission d'aider les Canadiens de la classe moyenne et les jeunes dans un contexte économique difficile. Justin Trudeau a assuré que le budget présenté hier permettra d'atteindre ce but.
En plus d'investir dans le logement, on va exiger des entreprises qu'elles contribuent à rendre la vie plus abordable et on va créer des bons emplois pour l'économie de l'avenir. On va le faire de manière responsable. Entre autres, on va demander à ceux qui ont très bien réussi dans la vie de payer leur juste part.
Au sport maintenant, au hockey, le Canadien de Montréal a activé l'option prévue au contrat de son entraîneur-chef Martin Saint-Louis, ce qui signifie que le Québécois demeurera à la barre du tricolore pour les trois prochaines campagnes. C'est le directeur général de l'équipe Kent Hughes qui en a fait l'annonce ce matin lors de sa conférence de presse visant à faire le bilan de saison du Canadien qui a pris hier. Hughes a dressé un bilan somme toute positif de la saison de son équipe.
Je suis très satisfait de l'avancement de nos jeunes joueurs, l'avancement de notre équipe dans l'ensemble. Je pense qu'on a vu une progression dans le jeu d'équipe aussi. On a des jeunes joueurs qui continuent à progresser avec nous à Montréal, puis à Laval, puis aussi dans les rangs amateurs.
Toujours au sport, au soccer maintenant, la nouvelle franchise d'expansion de la MLS à San Diego aurait interviewé l'ancienne vedette québécoise de l'Impact, Patrice Bernier, pour un poste de haute direction. C'est ce que rapporte le site The Athletic. Bernier joue toujours un rôle d'ambassadeur au CF Montréal, mais n'occupe pas de poste décisionnel. Et en terminant, scène internationale, la Russie compte maintenant plus de 50 000 soldats morts depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon un décompte fait par la BBC. Les pertes humaines ont été 25 % supérieures pour la deuxième année du conflit. Moscou ne confirme qu'un peu plus de 6 000 décès à travers les rangs de son armée, un bilan qui ne tient pas compte des décès de miliciens russes dans les territoires occupés de Donetsk, notamment. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial. CFIXRimouski.com.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Partout au Québec, vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Bienvenue à cette deuxième heure d'émission. On est encore sous choc après avoir appris qu'une place en poupon était payée 75 $ dans les garderies privées. Je vous dis, on est sous choc et merci pour vos nombreux commentaires. On va probablement revenir sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi c'est si dispendieux. Puis avec l'impact, les crédits d'impôt, est-ce que ça vaut encore la peine que les femmes aillent sur le marché du travail? Honnêtement, il y a un enjeu là qui est de plus en plus criant, tellement que Stéphanie nous disait, préposé aux bénéficiaires, nous disait, ben là, moi, j'envisage ouvrir mon propre service de garde compte tenu de ce que ça coûte et compte tenu de l'impossibilité pour moi de trouver une place pour mon poupon. Et tellement qu'il y a une auditrice qui nous a écrit pour nous dire que elle nous écrit personnellement pour avoir vécu des problèmes pour avoir des places en garderie pour mes deux enfants. Je conseille à mes amis enceintes de planifier un congé d'un an et demi et non d'une année. Pas facile de trouver. Elle dit, c'est plus facile de trouver une place quand l'enfant a 18 mois parce qu'il est plus considéré comme un poupon. Imaginez, on est rendu là. Enfin, je ferme la parenthèse et j'accueille notre prochaine invitée que vous appréciez, les horticulteurs et très connu, Albert Mondard. Bonjour Albert, comment allez-vous?
Bonjour Nathalie, ça va très bien vous-même?
Très bien Albert, merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, on a fait un segment avec Alexandre Huet de la Fondation David Suzuki, la fondation qui part en croisade pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'avoir une pelouse et un beau gazon le plus écologique possible. Et ça a créé toutes sortes de... ça a suscité beaucoup de réactions de nos auditeurs. Il y a un réel intérêt hein, pour le sujet, Albert. Et là, on s'est dit, on va aborder avec vous les trucs et conseils pour une pelouse la plus verte possible, la plus écolo possible. Et je demande à nos auditeurs s'ils font partie des crinqués qui veulent avoir un beau gazon, parce qu'on en a des crinqués au Québec, Albert, qui veulent avoir des beaux gazons. Il y en a pas mal.
Oui, absolument. Oui, il y en a encore beaucoup. Oui, tout à fait. Puis c'est correct. Là, il y a pas de souci si les gens veulent avoir une belle pelouse, hein, avoir un beau symbole de richesse et de réussite devant leur maison, ben on peut très bien comprendre ça, mais il faut quand même prendre conscience que la pelouse, ça peut devenir très polluant si on en fait l'entretien avec des méthodes qui sont pas tout à fait adéquates. On peut avoir une belle pelouse en santé, mais avec des méthodes écologiques, avec des méthodes qui respectent l'environnement, c'est tout à fait possible, là. Ça se peut.
OK. Parfait. Puis c'est intéressant lorsque vous dites, Albert, que la pelouse est synonyme de réussite, de richesse et tout, ça me fait sourire. Ça, à quel point la pelouse a pris des proportions vraiment qu'on n'aurait peut-être pas imaginées il y a une certaine époque. Mais commençons par le départ, Albert. Qu'est-ce qu'on fait au printemps pour sa pelouse? Il y en a qui commencent là, ils font comment on appelle ça, chaumer là, la pelouse, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire,
ouais,
là,
Déchaumer. On peut ne rien faire et la pelouse va pousser puis va être belle quand même. Même s'il restait des feuilles mortes, quelques feuilles mortes là, sur le gazon, c'est pas dramatique. Mais par contre, si on veut nettoyer, on veut s'assurer que tout est impeccable pour le printemps, bien évidemment, un bon ratissage là, ferme, là, ça permet d'enlever les débris. S'il y a du gravier là, qui a été propulsé par les équipements pour le déneigement, on peut enlever ça aussi. Enlever les branches, les feuilles, tout ça. Le déchaumage, c'est pas une technique qui est vraiment nécessaire. Ça peut être assez stressant, en fait, pour le gazon, le déchaumage. Donc, un bon ratissage ferme, là, avec un râteau à feuilles, ça fait le travail. S'il y a vraiment beaucoup de chaume, le chaume, en passant, là, c'est des brins d'herbe morts, hein. C'est tout simplement une accumulation de brins d'herbe. Lors de la tonte, ben, évidemment, si on laisse une partie des brins d'herbe en place, ça forme du chaume, ça forme un petit coussin de matière organique à la base des brins d'herbe qui sont en place. Alors, on peut le ratisser fermement, puis on va l'enlever, là, tout simplement, puis on va enlever par le fait même les débris.
Ah, c'est bien. Donc, ça prend du bon jus de bras, par contre, là, parce que ceux qui ont des grands terrains, des grandes surfaces au râteau, ça peut être long.
Comme je vous dis, c'est pas vraiment nécessaire de passer un râteau à la grandeur du terrain. Là. Ah. Le gazon va pousser, même s'il reste quelques feuilles mortes, quelques branches, je sais pas. C'est pas dramatique, là. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est particulièrement important, par contre, c'est de fournir de la matière organique. Beaucoup de personnes vont préférer mettre de l'engrais au printemps, fertiliser le gazon. Il faut être bien clair, là. Plus on fertilise une pelouse, plus elle pousse et plus il faut la tondre. Fait que ça, j'espère que j'ai été clair, là, que plus on fertilise, ben plus il faut tondre. Alors, la fertilisation, c'est pas nécessaire non plus pour le gazon. Par contre, ce qui est important, c'est de nourrir le sol. Nourrir la vie microbienne dans le sol, d'une part, tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol, les vers de terre, et par le fait même, on va nourrir les brins d'herbe en apportant du compost. Alors, le compost, c'est pas nécessaire de l'appliquer chaque printemps, mais à l'occasion, là, aux 2-3 ans, c'est pas mauvais de faire un petit terrotage dans les zones peut-être les plus visibles du terrain, en façade, là où on veut vraiment un gazon très dense, très doux. On va ajouter une fine couche, là. C'est quelques millimètres, là. C'est 3-4 millimètres d'épaisseur de compost. On peut l'étendre à la pelle. Il existe des épandeurs à compost aussi. On peut l'épandre à la pelle, puis ensuite, on passe un râteau à feuilles, mais les dents vers le haut. Pour éviter de tirer le compost, on va simplement l'enfouir entre les brins d'herbe. Et ça va donc nourrir la vie microbienne du sol, ça va nourrir le gazon, nourrir le sol. Ça va permettre d'avoir un sol qui va être mieux aéré, qui va mieux retenir l'eau, mais qui va aussi mieux se drainer, laisser aller l'excédent. Surtout dans les sols de la région de Montréal qui sont très argileux, qui ont tendance à être très bosselés au printemps, là. Mais c'est pas mauvais d'ajouter du compost, ça nous permet de combler les trous, puis d'abaisser aussi les petites bosses là qui sont formées.
Il y a tellement
un rouleau
de...
là-dessus. Il y a des gens qui veulent passer parfois le rouleau pour égaliser le terrain. Ben, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez compacter davantage votre sol. Ce qu'il faut, c'est l'aérer avec le compost, puis avec un ratissage, ça fait le travail. On peut même louer un aérateur pour aérer, mais c'est pas vraiment nécessaire. Le simple fait d'ajouter du compost va permettre d'aérer, puis de rendre le sol mieux drainé et plus adéquat pour la pousse du gazon.
Je vous écoute, Albert, il y a tellement de préjugés, d'idées préconçues, devrais-je dire, qui tombent, là, parce que, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y en a qui se cassent beaucoup trop la tête, là, pour entretenir leur pelouse. Ça finit plus de finir, là, le déchômage. Non, mais c'est vrai, les fertilisants, ça finit plus de finir, ça coûte une fortune, en plus.
Tout à fait, tout à fait. Évidemment, si on veut un green de golf chez soi, bon, on peut tout faire ça, là, du déchômage, du terrotage, de l'aération, on peut tout faire ça. Mais sincèrement, là, si vous voulez vous rendre la vie simple et avoir une pelouse correcte, adéquate, du compost, puis écoutez, pas tous les ans, là. Aux 2-3 ans, c'est suffisant. Même l'engrais n'est pas vraiment nécessaire. Si vous laissez les brins d'herbe lors de la tonte, vous fournissez déjà la moitié de l'azote dont le gazon a besoin. Puis vous apportez un peu de compost à l'occasion, vous fournissez encore un peu plus d'azote. Fait que là, voilà, votre gazon va être très beau. Il va être en santé. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, une pelouse diversifiée aussi, là. Ça, c'est pas mauvais, là. C'est même très, très bon d'avoir une pelouse qui ne contient pas que des graminées à gazon. Beaucoup de gens ne jurent que par ça, hein, le fameux pâturin là, qui est une graminée qui pousse dans la plupart des pelouses. Ouais. C'est une plante qui est assez fragile, qui demande beaucoup d'entretien. Alors, si on diversifie, qu'il y a du trèfle aussi, un peu de pissenlit, des violettes, du thym, oui, absolument, ben, ça permet d'avoir une pelouse qui est plus résiliente, qui se défend mieux contre les invasions des insectes, des maladies. Alors, si le pâturin est affecté par une moisissure ou une maladie ou un insecte, ben il va rester des plantes là, en place qui vont survivre puis qui vont pouvoir continuer à pousser. On ne perdra pas toute la pelouse. Puis ça fait une pelouse aussi qui a nécessairement besoin moins d'eau et de soins, moins d'engrais, moins de soins. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le lierre terrestre. Mais c'est une plante que bien des gens haïssent parce qu'elle est assez agressive et même un brin envahissante. Mais c'est tellement joli, ça fleurit au printemps, ça fait des belles fleurs bleues, un petit feuillage rond, très odorant, qui couvre tout. Ça devient quasi... ça prend beaucoup de place, ça devient quasi impénétrable par les mauvaises herbes par la suite quand on a du lierre terrestre. Mais bien des gens n'aiment pas ça, trouvent pas ça joli. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Hein? Pourquoi un pissenlit serait laid? Pourquoi un lierre terrestre ne serait pas beau? Moi, je pense que c'est une vision de l'esprit. Là. C'est l'humain qui veut bien se faire croire que telle chose est plus belle que telle autre. Là. C'est un goût bien personnel, mais moi, j'adore les pissenlits, j'adore les violettes et le lierre terrestre. Et je trouve que ça donne de la couleur à la pelouse. Puis en plus, et ça, c'est pas banal, là, c'est même extrêmement important, mais ça attire les pollinisateurs. C'est la première source de nectar au printemps, les pissenlits dans une pelouse.
Ben oui, il faut tellement insister là-dessus. Mais là, le monde capote avec les pissenlits. non, mais c'est vrai, ils capotent. Là, il y a du monde qui déteste ça. Là, il faut convaincre là, tous les réfractaires des pissenlits, mon cher Albert, qu'il ne faut pas les couper au mois de mai. Là. Je suis sûr qu'il y a des chicanes de coupe à cause de ça. Faut pas les couper. Vous recommandez. On ne coupe pas les pissenlits au mois de mai. Là.
Moi, je vis ça dans mon couple. Ma blonde est pas une fan des pissenlits. Moi, j'adore. Bon, on a un compromis. Là, on les enlève dans une bonne partie de la pelouse, surtout la façade. Puis il y a des bouts où on laisse certaines autres plantes pousser. Le trèfle, entre autres, puis le pissenlit. Mais cela dit, là, vous mettez du pissenlit en pot, là, puis vous vendez ça dans les contrées où il n'y en a pas. Dans certains coins d'Afrique, par exemple, là, puis ça fait sensation. Tout le monde en veut. Là, parce que d'abord, c'est indestructible. Ça se tue pas, un pissenlit. Ça fait une racine très profonde. Ça peut